c'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras, comme prima.
Monsieur Kogan, bien le bonsoir. Monsieur Edmond, l'émission Je m'ennuie bien, et c'est la dernière de l'année, vous amène pour une heure de bonheur, de joie et d'aventure.
Bonsoir Madame Henriette, bonsoir Monsieur Kogan.
Bonsoir.
Ça s'arrange pas, je vois là-bas du côté de la culture.
La grippe, mon ami, la grippe.
Ah, si, il n'y avait que vous de gripper. Mais dans ce monde, tant de choses sont grippées aujourd'hui.
Oh.
Alors, je vais commencer par quelques titres. J'espère que Madame Ginette arrivera à nous rejoindre dans cette fabuleuse émission. Je m'ennuie bien. Alors oui, j'ai juste un titre. Une voiture finit sa course dans le bassin de la piscine municipale à La Ciotat. Et je tiens à préciser à nos auditeurs que ce n'était pas une piscine d'été découverte. Donc il a vraiment fallu y aller. Et évidemment, comme chacun sait, une voiture ne flotte pas.
Eh bien, c'est une confirmation supplémentaire.
À mon avis, pour la sortir, ils ont bien galéré. Hein.
Bon, je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de victimes.
Oui, alors qu'il y a des gens qui sont morts, je crois, il y a 2 semaines comme ça, hein, je crois.
Oui.
Bon.
Mais là, je crois qu'il n'y a pas de victimes.
Alors,
contrairement à Madame Ginette qui est victime par ricochet du syndrome grippal, elle nous prie de l'excuser.
D'accord, par ricochet, très bien.
Voilà.
Alors, en plus, s'il ricoche, au secours.
Les auditeurs l'apprennent en même temps que nous.
Alors, l'humanité, il y avait cette petite brève assez rigolote dans une note interne adressée au personnel de son ministère le 9 décembre. Ce cher ministre américain des Affaires étrangères, Marco Rubio, bien connu de M. Kogan, tellement il est idiot. Ça rime, c'est pour
pire.
Ça.
Et c'est le moins pire du gouvernement.
Ouais, mais pourtant, il en tient une... Bon, enfin bon.
Mais dites donc,
a décidé...
On peut critiquer, mais on peut, faut pas dire des choses comme ça. Hein?
A décidé de renoncer à la police d'écriture Calibri, jugée trop woke. Hein, même les polices d'écriture sont woke maintenant.
Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour la police Comic Sans?
Alors les fonctionnaires...
Mais il y a du boulot dans ce ministère.
Et oui, il aura fait un mémo, ça méritait un mémo.
Ça bosse dur quand même. Hein.
Il aura fait un mémo pour leur dire d'utiliser le Times New Roman taille 14.
Ah d'accord. Il me semble que c'était... Bon, il est parti, hein. C'était pas Elon Musk qui faisait la chasse aux pertes d'énergie, de temps dans l'administration.
Ouais,
non, écoutez. Parce que là, bon, on a un exemple.
Alors, pourquoi l'administration précédente, celle de Joe Biden, avait demandé à écrire en Calibri? Eh bien, c'est juste que des experts ont dit que c'était une police plus accessible aux lecteurs handicapés, parce que les lettres ont des angles plus arrondis, moins d'empattement, l'espacement est plus large, et donc pour ceux qui ont des problèmes de dyslexie, de malvoyance, c'est plus lisible. Mais visiblement, c'est trop woke. Alors, j'aime bien à la radio vous convier à aller voir une photo. Donc, si vous pouvez, dans votre moteur de recherche préféré, allez taper, puisque c'est Reuters qui m'a appris ça, puis ils avaient fait de super photos, évidemment, Reuters, l'agence de presse. Allez taper Anna Rodriguez, qui organise depuis 8 ans un grand rassemblement à Hyde Park. Et cette année, il y avait le pape et le Grinch. Et c'est un rassemblement de...
De gens verts.
Non, de teckel, Madame Henriette, de teckel. Alors certains sont costumés, comme vous l'avez compris, déguisés en pape ou en Grinch. Et cette année, quand même, 1000 chiens saucisses ont participé à la balade. Pas mal, 1000 teckels au même endroit,
d'accord,
ça doit être quelque chose quand même.
Donc des chiens déguisés en pape ou en Grinch, et évidemment, vu les pattes qu'ils ont, probablement pas en Pretty Woman.
J'ai pas l'impression, en tout cas, aller voir les photos, c'est assez rigolo. Faut aimer les teckels, évidemment.
Alors, Anna, A-N-A.
Oui, Anna Rodriguez, Aena, absolument, Monsieur Kogan, qui allait tout de suite voir à quoi ressemblait un chien saucisse.
Carrément.
Non, ils sont magnifiques. Alors, j'ai besoin de vous tous, de tous les auditeurs. Est-ce que je n'ai pas compris, j'en suis désolé, la publicité de la DGCCRF? Alors, il y a une espèce de photo avec un gars qui tripote un autre au poignet. Bon, jusque-là, bon, pourquoi
pas. Qui tripote quoi?
Un autre gars au poignet.
D'accord.
Ça s'appelle « Pour des fêtes en toute sécurité ». Ouais.
D'accord.
Vous cherchez une tenue de soirée, c'est écrit en gros avec un point d'interrogation. Voilà, je me dis bien sûr, je cherche une tenue de soirée, il faut
oui,
que je sois beau quand même pour les fêtes.
La mode, c'est votre vie, c'est la mode, ou la mode, c'est votre vie, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire.
Alors vous faites défiler, parce qu'il y a plusieurs images pour cette publicité mirifique. On arrive à la deuxième image, comment choisir un vêtement? Ah oui, j'ai besoin de la DGCA, c'est bon ça. Hein. Alors, 1, choisir un vêtement d'une marque réputée. Oui, alors là, pas forcément, j'ai envie de dire. Hein, bon. 2. Vérifier la composition du textile et son lieu de fabrication. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'étiquette, faire confiance à l'étiquette, tout ça. Bon, ok. 3. Se fier aux avis des autres clients. C'est-à-dire, vous êtes dans votre cabine et vous gueulez. Ouais, qui c'est qui a essayé le costume gris là? Il est bien ou pas? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est... Non, pas sûr, d'accord, ok.
Bon. Vous me faites peur ce soir.
Alors, je pense, monsieur Edmond, qu'il s'agit de vente en ligne.
Ah ben, c'est pas précisé nulle part. Hein.
Eh oui, mais bon, c'est parce que vous êtes comme nous, vous êtes un provincial, vous achetez encore dans des vrais magasins physiques. Mais plus personne
ne
fait ça.
Ah, mais attendez, je viens de comprendre. Ouh là là, madame Mariette. Ah oui, en fait, c'est comment choisir un vêtement? 1, 2 ou 3? En fait. Il y a une troisième image, c'est la bonne réponse était la 2, vérifier l'étiquette.
D'accord.
Ah, parce que ça m'étonnait que la DGCCRF fasse la pub pour les vêtements de marque réputée. Ah oui, non, mais c'est tellement mal fait, j'avais pas compris le truc. Pardon.
Oui, alors, excusez-moi, c'est peut-être le problème, il est de l'autre côté de l'écran.
Ah, mais c'est fort possible, hein, mais bon, c'est quand même pas très bien fait, pardon. Alors, la composition du produit, nos conseils, doit être indiquée clairement. De même que les instructions de lavage. Ok. Le nom et la raison sociale du fabricant doit apparaître.
En fait, ça, c'est réglementaire. Hein.
Le nom et la raison sociale du fabricant. Sur l'étiquette,
alors,
vous avez toujours le...
La composition... Bah, si vous le dites, c'est que c'est réglementaire. C'est pas... La DGCCRF, c'est pas les plus grands poètes de ce pays. Hein. Ils sont pas tout le temps dans l'improvisation. Hein. En général, il y a un texte derrière. Hein.
Et donc, assurez-vous qu'ils respectent bien les exigences de sécurité. Alors, pour un vêtement de soirée, c'est quoi les exigences de sécurité?
Alors, en fait, il y a des exigences de sécurité sur les vêtements. Par exemple, alors ça dépend également de l'âge de celui qui va porter les vêtements. Mais par exemple, donc, les vêtements avec cordon pour les enfants, c'est les cordons qui seraient assez longs pour que l'enfant puisse s'étrangler avec. C'est proscrit. Voilà, c'est des
choses
comme ça.
Pour une tenue de soirée, c'est-à-dire... ah oui, si vous choisissez une tenue à un enfant, il ne faut pas qu'il ait de... D'accord.
Donc, il y a quand même des histoires effectivement, de sécurité.
Ouais,
enfin, sur les vêtements.
Ouais, d'accord, ok. Bon. Très bien. Alors, passons tout de suite à autre chose. Et là, je sais que je vais avoir besoin de l'aide de M. Kogan.
Donc, il ne s'agit plus de mode.
Si, c'est
ah
de
bah
la...
non.
C'est de la mode bretonne.
Ah, c'est la dernière émission de l'année, hein.
En soirée, faut-il porter un chouchen sur la tête?
Non. Cette question n'a aucun sens.
Non, alors je voulais vous parler de Sydney Sweeney. Sweeney, quoi, je sais pas comment on dit.
Oui, oui.
Cette Sydney. Magnifique actrice qui donc... Bon. Alors, ce qu'elle a de bien, c'est qu'en 2025... Non, mais je sais plus, elle a fait plein de trucs, mais surtout des pubs. Elle montrait ses fesses et elle disait que je sais pas quoi. Comment
elle était très très bien dans Eden. Elle était très très bien. Donc attention.
Non, mais attention, mais justement, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Parce que figurez-vous que vous parlez d'Eden, vous faites bien, monsieur Kogan. Mais n'empêche qu'elle a tourné 4 films qui sont sortis cette année. Alors, elle ne les a pas tous tournés en 2024. Mais enfin, en tout cas, les 4 films qui sont sortis avec elle cette année, eh bien, ce sont des flops. Voilà. Au box-office et en streaming. Donc évidemment, ça fait un peu ricaner. Alors, on commence par Christie. Donc, c'est un film où elle faisait la boxeuse Christy Martin. Voilà, film biographique. Vous l'aviez vu, monsieur Kogan? Non.
Non.
Americana.
Oui, donc, là. C'est...
Alors là, pareil, ça fait un flop. Apparemment, des gens qui sont à la poursuite d'un artefact, c'est ça?
Oui, c'est pas son meilleur.
Non, non, c'est tout. C'était pour vous signaler qu'il fallait laisser parler Monsieur
Alors,
Hogan.
Eden, donc réalisé par Ron Howard. Donc, effectivement, en général, on se dit ça va être. Ça a fait un flop, hein, ce film, Monsieur Hogan.
J'en ai parlé et j'ai dit que ce film n'avait pas que des. Mais vous n'écoutez pas ma chronique, je crois. Donc...
mais si, mais je m'en souviens pas tous, Monsieur Hogan. Vous chroniquez tellement de films.
J'en ai parlé, mais évidemment, ce film n'a pas que des qualités. Mais elle était très, très bonne dans le rôle. Et voilà.
Ça n'a pas suffi.
Voilà, ça n'a pas suffi à sauver le film.
Ah non, bien sûr.
Et alors, dernier film qui est sorti avec elle cette année, Echo Valley, où il y avait également Julianne Moore.
Ça, c'était pas très bien.
Par Michael Pierce. Et pareil, ça a fait un flop.
Cela étant, c'est pas parce qu'un film fait un flop qu'il est mauvais, et inversement.
Non. Mais alors, un film qui fait un flop au cinéma et qui, en plus, se récupère pas au streaming, c'est quand même très mauvais signe.
Ouais. Et en plus, Monsieur Hogan dit que c'est pas bon.
Ouais, là, ça fait beaucoup. Hein. Bon, bah écoutez, on va quand même suivre cette actrice qui donc fait la pub pour America Great Again. Bon. Alors, je vais vous parler des Posidonie. Non, mais j'aime bien me la péter. Et oui, Madame Ariette. Non, mais normalement, vous devriez connaître parce que.
Ben, et ça évoque quelque chose pour moi, mais là, vraiment, non.
Ouais. Mais...
Je le retrouve pas.
Ouais, parce que les fonds marins, c'est pas votre truc. Mais les plantes, oui. Et ben là, c'est une plante des fonds marins, vous voyez.
D'accord.
Alors, les Posidonie, qui c'est qui nous en parle? Alors, j'ai utilisé deux articles pour vous parler des Posidonie. C'est un article paru dans Combini et un autre. Dans une revue que je ne connaissais pas, une revue en ligne qui s'appelle La Relève et la Peste, qui est également une maison d'édition et oui. Qui se veut donc une revue écologique sans pub. À mon avis, pour parler d'écologie, c'est mieux.
C'est assez radical. On va pas...
Oui, assez radical, mais là, vous allez voir, l'article n'est pas du tout radical. Puis ils ont parlé de Paolo Fanciulli, je ne sais pas trop comment on dit, donc un pêcheur. Et en fait, il pêche depuis qu'il a l'âge de 13 ans. Il est évidemment en Méditerranée, en Toscane. Et il est connu parce qu'il a essayé d'arrêter la pêche industrielle. Parce que lui, dans son petit village, il y avait des pêcheurs qui faisaient de la pêche plutôt artisanale. Et au bout d'un moment, ils n'arrivaient même plus à pêcher parce que les gros chaluts venaient, ils raclaient tout. Et bon, ben voilà, hein, à la fin, même les petits pêcheurs n'ont plus rien à prendre. Et donc, il avait déjà bloqué des ports. Avec les militants de Greenpeace. Il avait tenté de détruire les grands filets de ces gros chaluts avec des barbelés. Il avait arrêté un chalut en se faisant passer pour un policier. Voilà, il avait plein de ressources, ce monsieur. Et donc, il voyait bien que ça ne suffisait pas. Et quand les Posidonie, donc ces herbiers qui sont essentiels à l'écosystème méditerranéen, notamment pour les dorades, les langoustes, les grondins, eh bien, là, il a pété un câble et il s'est dit, il faut vraiment que je trouve une solution. Alors, la solution, c'est un peu étrange au début quand on lit les trucs, c'est qu'il s'est mis à balancer des blocs de béton au fond de l'eau. Alors, on se dit, oula, l'écologie.
Mais des blocs de béton avec les pieds de personnes dedans.
Non.
D'accord.
Enfin, pas cette fois. Non, mais c'est la Toscane.
Non, parce qu'on est en Italie,
donc Madame Mariette,
c'est
pas la Sicile.
J'ai le droit de me renseigner quand même.
Alors, en plus, c'est le gouvernement italien lui-même, et c'était en 2006, donc à l'époque, c'était pas... Voilà. Et qui avait commencé de faire ça, et apparemment, ça marche, parce qu'en fait, les chalutiers, ils aiment pas du tout les gros chalutiers, parce que comme ils ratent les fonds et tout, ça, des fois, ils prennent un gros bloc dedans, et donc ça leur arrache leur filet, donc ça les perturbe. Alors finalement, il s'est dit, bon, quand même, des blocs de béton comme ça, c'est un peu nul. Donc lui, il a décidé, il est allé voir une carrière qu'il connaissait où ils avaient du marbre, hein, puisqu'évidemment, en Italie, c'est connu.
Ah, ben là, oui, tout de suite, ça a une autre allure, évidemment.
Il s'est dit, tiens, on va balancer des blocs de marbre.
Et comme ça, il y a des cons dans 3000 ans qui croiront qu'il y a un temple qui a été englouti, dis donc.
Ah, mais attendez, vous allez voir, Madame Ariette, ça va plus loin. Donc, il comptait avoir deux blocs de marbre à la carrière. Et finalement, les gars, bah, écoutez, on va vous enfiler 100. Bon, bah ok, 100 blocs de marbre, ça va toujours faire ça. Et du coup, il s'est associé à des artistes. Et avant de balancer les blocs, eh ben, ils les ont sculptés.
Ah oui, ben là oui.
Alors, il y a Giorgio Buttini, Massimo Lippi.
C'est la Toscane.
Ouais, Beverly Pepper.
Ils peuvent pas s'empêcher de frimer avec leurs artistes.
Emily Young, Catalani, Vantaggiato. Alors, donc, il y a une sirène, il y a un obélisque. Enfin, il y a tout un tas d'œuvres, voilà. Et donc, il a appelé ça la Casa dei Pesci, la maison des poissons.
Oh, là là, votre italien est désastreux.
Mais allez-y, monsieur Kogan.
Ah bah non, bah non.
Mais vous pouvez me corriger, moi j'aime pas les langues.
Oh.
À part le français, évidemment, qui est la seule langue qui est potable, le reste, ça vaut pas tripette.
Quelle honte, quelle honte.
Donc la maison des
Vous
poisons,
en
des poissons, pardon.
profitez parce que Monsieur Kogan est un peu diminué par la maladie. Hein? Vous ne feriez pas ça s'il était en pleine forme.
Ouais.
Donc ils en sont à 800 blocs quand même de béton et de marbre et 49 sculptures. Voilà, donc bon bah c'est pas mal. Et ils estiment que le chalutage illégal a été réduit de 90%. Donc c'est cool.
Ah ben c'est
Alors
sûr que quand il s'accroche dans la main ou dans l'arc de je ne sais quelle sculpture, ça doit.
Ah bah c'est surtout que les trucs pèsent tellement lourd que même les gros chaluts, non, ça passe pas. Hein. À mon avis, après, il y a le moteur qui fait.
Bon, alors
Capitaine, on n'avance plus.
est-ce que les poissons sont de retour?
Et les poissons sont de retour. Exactement, Madame Henriette. Je voudrais dire un mot quand même sur le chalutage, parce que, en fait, c'est interdit
Et
à moins de 5,5 km des côtes. Mais les chalutiers, ils y vont la nuit. À l'époque où les fonctionnaires qui font respecter la loi sont au dodo. Et donc, vous voyez, voilà.
oui, mais bon, 5,5, c'est pas facile. Les GPS,
Ouais,
ils
c'est
sont pas
pas
tous
précis tout
précis. Ben
ça,
oui,
exactement. Oui, on sait bien que.
m'amusez-vous.
Voilà. Bon, en tout cas, c'est atteint. Ça va mieux. Malheureusement, pour notre ami pêcheur, eh bien, il va lancer un nouveau projet. Donc, il a lancé une pétition pour faire cette fois la Casa dei Polpi, la maison des poulpes. Parce qu'il a repéré des endroits où des bateaux industriels viennent pêcher illégalement les poulpes. Alors en plus, les mecs, comme si ça ne suffisait pas de pêcher illégalement des poulpes, ils font ça avec des pièges en plastique.
Ah bah.
C'est la totale. On les félicite.
Alors, c'est quand que vous nous parlez des Posidonies?
Mais j'en ai parlé, c'était quand il a vu que les Posidoniers étaient en train d'être raclés complètement peints. C'est là où il a pété un câble, il s'est dit ben, je vais leur
D'accord, mais
balancer plein de cubes en béton.
donc
Et vous étiez en train de regarder autre chose.
ça protège les Posidonies aussi, alors.
Mais évidemment. C'est là où il y a les dorades, les langoustes et les grands drains
Est-ce que
rouges.
Posidonie, ça vient de Poséidon?
Je n'en ai aucune idée, Madame Henriette. Arrêtez avec vos questions oiseuses. Allez, donc c'était la relève et la peste, Combini, pour nous parler de ce pêcheur fort militant, Paolo Fanciulli. Donc vous pouvez aller voir, pareil, si vous voulez voir les photos des sculptures avant qu'elles soient noyées, ou si vous êtes plongeur, peut-être il est possible d'aller plonger à la maison des poissons en Toscane. C'est à vous, Madame Henriette, dans Je m'ennuie bien.
Eh bien, je m'en réjouis parce que je vais pouvoir vous donner quelques nouvelles de ce monde totalement absurde. Alors, peut-être certains d'entre vous s'inquiétaient un petit peu. On parle beaucoup moins de lui parce qu'on parle on parle des moindres gestes de certains dictateurs et on oublie un peu Kim Jong-un.
Mais c'est vrai, moi j'étais
Que
inquiet.
devient Kim
Ouais.
Jong-un?
À midi, j'étais inquiet. Je me disais, c'est bizarre.
Ah, hein, voilà.
Avec tous les conos qu'on a, pourquoi lui il fait pas plus de bruit?
Monsieur Kogan, vous aussi, vous étiez préoccupé.
Oh là, j'ai rien à dire.
Donc, bon, je vous rassure. A priori, ça va plutôt pas mal. On a eu quelques petites nouvelles par Yonhap, l'agence de presse sud-coréenne. Donc, Kim Jong-un était, comme quasiment chaque année, à l'anniversaire de la mort de son père. C'était le 14e anniversaire de la mort de son père, qui a dirigé la Corée du Nord entre 1994 et 2011. Donc,
Et
ça
qu'est-ce qui
va.
nous manque, hein, quand même?
Ils sont. Oh oui. Et donc, bon, tout s'est bien passé. Hein. De toute façon, tout se passe toujours bien dans ce pays. Et même si ça se passe mal, il n'y a personne pour le dire.
C'est-à-dire que si tout s'est bien passé, le mec est mort de toute manière. Donc, qu'est-ce qui pourrait
Oui,
mal se
mais.
passer?
Donc, vous avez. Alors, on est à la radio, donc je ne peux pas vous montrer cette merveilleuse photo d'officiel. Alors, il y a une alternance de costumes bleu marine et d'uniformes kaki. Et puis, bon, bah, écoutez, les magnifiques gerbes de chrysanthèmes, c'est la saison. Tout ça porté par une jeunesse
Ah, flamboyante, heureuse.
flamboyante et surtout au pas de l'oie. Voilà, donc tout va bien. Kim Jong-un, a priori, ça se passe bien. Côté réchauffement climatique, ça se passe bien aussi.
Ah, il y a que des bonnes nouvelles là, j'ai entendu.
Oui, il n'y a que des bonnes nouvelles. Alors, l'Arctique. a vécu l'année la plus chaude jamais enregistrée. C'est le titre d'un article du Monde avec l'AFP au demeurant, mais c'est aussi le bilan de cette année. Donc voilà, on est 1,6 degré au-dessus de la moyenne 1991-2020, donc on est plutôt pas mal.
La dernière COP, un fiasco total, donc
oui.
C'est top.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que c'est comme un film catastrophe, en fait. Ça commence par une mesure sur le thermomètre, et puis après, vous avez un effet, un deuxième effet, un troisième effet, et puis tout ça monte en puissance. On apprend de façon assez peu intuitive, par exemple, je ne vous parle évidemment pas du désastre pour les ours polaires ou les phoques. Hein,
bon, ça fait longtemps,
voilà.
Que oui, mais on a parce l'IA pour les ours polaires, ils nous les font en vrai.
La glace fond, alors. La glace fond, le problème c'est que la glace c'est blanc, l'océan c'est plutôt foncé, donc ça accélère le réchauffement climatique puisque au lieu de renvoyer les rayons du soleil, eh bien, l'océan les absorbe, donc vous avez moins de surface pour renvoyer les rayons du soleil. On apprend aussi de façon assez peu intuitive que ça rend plus fréquent les séquences d'air très froid qui arrive sur nos pays, puisqu'en fait, le différentiel entre la température de l'Arctique et le reste se réduisant, les vents, l'Arctique, ne fait plus office de stockage du froid au niveau du pôle. Enfin bon, on apprend plein de choses tout aussi intéressantes les unes que les autres. On ne parle pas de la fonte du permafrost, qui non seulement libère des quantités phénoménal de CO2, mais en plus risque de libérer d'autres choses beaucoup moins sympas. Bon, voilà. Donc là, on est plutôt bien.
Non, mais écoutez,
seule bonne nouvelle.
Vous angoissez, mais pour rien. Hein.
Non, j'angoisse pas du tout. La seule bonne nouvelle, pour angoisser, faut avoir encore un doute.
Non, mais regardez, il suffit qu'on peigne tout en blanc et puis on va les renvoyer les rayons du soleil.
Eh bien voilà, merci monsieur Edmond.
Mais bien sûr, un problème, une solution.
Vous savez qu'il y a des postes de chroniqueurs sur CNews qui se libèrent là. Je pense que vous êtes. Vous pouvez les intéresser.
Mais oui.
Et donc, la seule bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que quand la banquise fond, le niveau des océans ne monte pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, quand les glaciers fondent, le niveau des océans monte.
Oui, parce que la banquise est déjà sur l'océan.
Exactement.
Elle appuie déjà dessus, oui.
Et alors là, au niveau de la fonte des glaciers, on est bien aussi. Donc, il y a une étude qui vient d'être publiée dans Nature Climate Change. C'était également un article du Monde. Donc cette étude indique que bon, alors ça dépend des scénarios, ça sera plus ou moins catastrophique en fait, mais nous allons au cours du 21e siècle connaître un pic de fonte des glaces qui va nous amener au rythme absolument formidable d'une perte entre 2000 et 4000 glaciers chaque année. Voilà, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt les petits glaciers qui vont disparaître. Les grands devraient, les plus gros devraient
tenir le choc,
en tout cas, voilà. En volume, donc, on perdra une partie des glaciers, mais par contre, en nombre, on va en perdre la majorité, a priori, puisque vous avez les trois scénarios. Vous savez, le scénario à 1,5 de réchauffement climatique, donc là, on a juste envie de rire, c'est terminé, c'est derrière nous.
Mais non, Madame Henriette.
A priori, nous nous acheminons plutôt vers un réchauffement de 2,7 degrés. Et puis, si les choses s'emballent, on n'est pas à l'abri. Le scénario pessimiste, c'est plus 4 degrés. Alors, avec plus 2,7 degrés, il resterait 20% des à la fin du siècle. Hein. Il resterait 20% des glaciers actuels. Et puis avec un scénario à plus 4 degrés, bon, mais il en resterait 10%, évidemment. Ce qu'on va perdre en premier, eh bien, ce sont, je vous le disais, les petits glaciers. Et au premier rang, eh bien, ça va être les Alpes. Donc, a priori, les Alpes, ce sera vraiment ce sera le peloton de tête. Donc, si vous voulez voir des glaciers dans les Alpes, c'est vraiment tout de suite. Il ne faut pas trop traîner, n'attendez pas la retraite. Surtout
mais Madame Henriette, il y a déjà du surtourisme. Enfin, qu'est-ce que vous faites?
Voilà,
là
surtout que bon, la retraite, ce n'est pas certain. Donc, le pic d'extinction pour les Alpes, ça va être 2033.
Ah, si je veux me mettre au Bosselec, c'est avant, quoi.
Ah oui, là, va falloir. Alors après, il va vous en rester en Russie jusqu'à la fin du siècle, à peu près. Alors, toujours pareil, la Russie, oui, non, on ne sait pas trop. Hein, est-ce qu'il faut y aller ? Pas certain. Et puis,
non, mais bon, la Russie, sans ses zones désertes et glacées, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être triste, comment ils vont faire les dictateurs russes ? Qu'est-ce qu'ils vont faire des opposants ?
C'est vrai que la Sibérie, actuellement, c'est très riant, en effet.
Bah ouais, bon, s'il n'y a plus de glace, plus de neige, quoi, quand même, c'est pas sérieux, ça.
Je ne sais pas si ça va changer grand-chose.
Ben non, mais M. Poutine, il devrait lutter contre le réchauffement climatique. Ça va lui foutre en l'air des prisons immenses à ciel ouvert.
En effet.
C'est un bon argument, il faut que je lui fasse passer.
Michel Strogoff à la plage.
Bah oui, vous voyez, ça pose plein de problèmes quand même.
Et donc voilà, le nord du Canada également, vous devriez encore avoir des glaciers pendant un petit moment. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on a envie de dire, c'est pas...
Non, vous voulez
le
nous
processus
dire que...
est enclenché, hein, donc maintenant on le sait.
Vous voulez nous dire que les gars de la Commission européenne n'ont pas lu l'article du Monde, c'est ça ?
J'ai l'impression que leur abonnement est terminé.
Depuis un moment.
Il s'est passé quelque chose, là. Ils ont changé de carte bleue. Je vois ce qui s'est passé, voilà. Et d'ailleurs, à propos d'abonnement au Monde, et je voulais terminer là-dessus, j'ai reçu une proposition particulièrement alléchante de la part du Monde, auquel donc je suis abonnée. Et le Monde me propose, c'est le titre de leur message, vous savez, on est en décembre, on est même fin décembre maintenant. Et donc, le Monde me propose, avec un point d'exclamation à la fin, « Revivez l'année 2025 ». J'ai très envie de leur répondre « Non, merci, ça ira ».
On se demande bien pourquoi, Madame Henriette. Bon, bah écoutez, mais ils avaient bien un truc à l'Europe, non ? Ils appelaient pas ça le Green Deal ou je sais pas quoi ?
Ah oui, non, mais ça, c'est fini.
Ah, c'est fini ?
Non, c'est fini, ça.
Oui, ça ennuyait tout le monde, c'était
fatigant.
Oui,
c'est ça, s'ennuyait en tout cas la majorité actuelle. Donc non, ils arrêtent.
D'accord, bon, bah écoutez.
Ça les intéresse plus.
Eh ben nous, dans Je m'ennuie bien, on n'arrête pas, puisque M. Kogan a vu des magnifiques films, il nous a dit, cette semaine.
Oula, oui.
Comme vous y allez.
Comme vous y allez. Alors, pour cette dernière émission de 2025, permettez-moi de commencer par saluer très humblement Roselyne Bachelot. Eh oui. Bon, non pas que ce ne soit pas sérieux, mais ce n'est pas le sujet, donc je vais tenter de parler de toute autre chose, de cinéma. Mais enfin,
Mais elle n'en a pas fait du cinéma ?
Voilà, je ne pouvais pas faire autrement que de saluer cette célèbre chroniqueuse des grosses têtes, hein, Roselyne Bachelot, qui est devenue en trois minutes l'équivalent de Che Guevara. Donc, la meuf a fait plus en 3 minutes à minuit et demi sur France 2 que 10 ans de manifestations antifascistes. Moi, je dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Des fois, il faut compter sur une dame d'un âge certain et d'une tenue moins certaine. Mais voilà.
C'est parce que vous n'aimez pas les couleurs vives.
C'est ça, le monde est plein de surprises.
Ah donc, là.
D'abord, peut-être parce que j'en attendais un peu trop, j'ai été presque déçu. Mais je vous conseille quand même de regarder, c'est normalement sur Apple TV, Down Cemetery Road. Alors, une première saison de 8 épisodes avec à la manœuvre la scénariste de Slow Horses, donc ça part plutôt bien, hein. Et on retrouve le même ton grinçant d'ailleurs, hein, dans cette série. Maureena Banks. On suit l'enquête foutraque menée par une restauratrice d'art en pleine dépression, Sarah, jouée par Ruth Wilson, qu'on a vu dans les séries Luther et The Affair. Et la détective un peu trash, Zoé, jouée par l'impériale Emma Thompson. Voilà. Pour retrouver une enfant victime d'un étrange complot d'État, je ne sais pas comment dire ça autrement, avec des hommes de main complètement psychopathes, donc une sordide affaire secrète, des agents, des cadres, des services, pas tous compétents, c'est le moins qu'on puisse dire. On est souvent un peu désarçonné par le ton de la série. Tout ça, ça se passe entre Oxford et les Highlands. On sourit quand même aussi à de nombreux moments. Et puis l'histoire est tellement rocambolesque qu'on passe sur les incongruités nombreuses scénaristiques. Hein. Ne serait-ce que parce que les personnages sont, il faut dire, excellents, autant que leurs interprètes. Donc, une série qui ne manque pas d'action, mais où les hommes en prennent pour leur grade. On ne va pas se mentir. Une deuxième saison
Oui, pardon, rappelez-nous le titre.
Down Cemetery Road, en trois mots. Voilà. Donc, une deuxième saison est à suivre. Et on espère y retrouver Emma Thompson, qui visiblement s'est beaucoup amusée dans cette série. Voilà, donc rien que pour ça, je vous la conseille. Alors, côté film, et grippe oblige, pas de salles obscures et un peu de plateforme. Pour commencer, j'attendais là aussi peut-être un peu trop, du troisième opus de « À couteau tiré ». En me disant, bon voilà, le détective Benoît Blanc, incarné par Daniel Craig, va encore faire son numéro, ça sera plaisant. Bon, même si le deuxième était quand même un petit peu capillotracté. Et puis, bon, ben là, il y a Josh O'Connor qui est vraiment une valeur montante à Hollywood. Donc, je me disais, ça va le faire. Eh bien.
Ça le fait moyen.
Voilà, donc cette histoire de prêtre à moitié fou, réac, assassiné dans sa paroisse, qui elle aussi est un peu étrange, avec un jeune prêtre dont on ne sait pas trop s'il est victime, coupable, naïf, enfin bref. Et alors, une galerie de personnages très haute en couleur, hein, avec... des acteurs tout autant, Mila Kunis, Jeremy Renner, Glenn Close. Bon, bah, on dit tout semble réuni pour que ce soit...
Oui, gros casting quand même.
Insupportablement long. j'ai abandonné au bout de 34 minutes. Et, sauf que c'est à 34 minutes du film qu'apparaît Benoît Blanc. Donc je me dis, ah, allez, je vais rester un peu. Et en fait, c'est comme quand vous avez commencé un plat que vous ne trouvez pas bon et vous dites oh, allez, la prochaine fourchette, c'est peut-être. Et en fait, ce n'est pas bon à la dernière fourchette non plus. Hein.
Oui, c'est comme ces soirées ratées où vous restez au cas où il se passerait quelque chose de chouette.
Voilà, bah, c'est toujours raté. Et donc, voilà, Daniel Craig devrait arrêter de vouloir casser son image de super agent secret. Ça y est, c'est fait, c'est tout cassé. Voilà.
De toute façon, James Bond, c'est Pierce Brosnan.
Mais non, c'est Sean Connery, enfin, soyons sérieux.
Je ne rentrerai pas dans ce débat. Alors, à propos de tout casser, c'est scabreux hein, mon truc là. Voilà le film que je conseille pour Noël, The Unbreakable Boy.
Oh, 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 oh. Allez, c'était peut-être le dernier de l'année.
Voilà. Donc, un film à voir en famille, ou presque, mais oui.
Pour ceux qui en ont une, quoi.
Oh, ben bravo, vous savez mettre l'ambiance, vous.
Mais non, mais justement, c'est un film pour remonter le moral. Voilà, parce que c'est un film qui va vous secouer, qui va vous émouvoir. C'est un petit film, on va pas se mentir. Et puis, c'est un petit film parce que, aussi à cause de son acteur principal, Zachary Lévy. Zachary Lévy, c'est cet acteur qui était très connu jusqu'à l'année dernière, qui était très en vue jusqu'à l'année dernière. Il avait joué, entre autres, dans Shazam, hein, une espèce de super-héros comique de DC. Et, sauf que l'année dernière, il a cru bon de soutenir Donald Trump aux élections. Donc, évidemment, le type est complètement cramé à Hollywood. Cramé, c'est cramé. Et donc, bon, je ne dis pas qu'il n'a pas eu tort. Il a eu tort. Ça ne se discute pas. Mais... depuis, j'ignore ce qu'il en pense. Et puis après tout, ce n'est pas vraiment le problème.
Puisque oui, son métier, c'est acteur quand même.
Eh oui, puisque là, en l'occurrence, le film dont on parle, n'a rien à voir avec ça. L'histoire, elle est simple. Un enfant né avec la maladie des os de verre. Bon, déjà, on se dit, ça va pas être simple tous les jours. C'est génétique, sa mère a une forme atténuée de cette maladie. Bon. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que l'enfant a. Il y a quelque chose qui dysfonctionne un peu dans son comportement, et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que cet enfant a une forme sévère d'autisme. Là, on se dit, l'histoire, voilà. Hein, bon.
On n'est pas trop sûr de
Non,
comment
mais vous
dire.
nous avez parlé d'un feel-good movie quand même,
Ouais,
hein?
c'est ça, c'est on n'est pas on n'est pas tellement parti dans la comédie rigolarde là.
Eh ben, écoutez, une forme sévère d'autisme. Sévère mais joyeuse. Parce que cette histoire vraie d'une famille qui doit en permanence se réinventer autour de cet enfant, Austin, dit Osman, évidemment, eh bien, cette histoire déborde d'énergie autant que cet enfant. C'est un vrai film de Noël, ouais, qui montre les difficultés, les chagrins, mais ainsi que, dirais-je, peut-être que aussi, montre que chaque jour peut être le plus beau jour de notre vie. Voilà. Parce que c'est un vrai feel-good movie à déguster avec un milkshake à la fraise. Vous comprendrez pourquoi en regardant le film. Voilà. C'est un film qui va peut-être poser vos problèmes à côté de vous et vous dire, ah bah oui, il y a des gens, c'est plus difficile que moi. Et là,
Ça, c'est certain.
voilà. Et rien.
Finalement, mon corps au pied.
Et ouais, rien que ça, et ben je vous jure, à la fin, vous finissez le film en vous disant, eh ben ces gens, ils sont courageux, ils ont réussi à créer un truc qui fonctionne parce que voilà, cet enfant, il apporte autant qu'il demande. Et il demande beaucoup, évidemment, mais ce n'est pas sa faute. Donc voilà, mention spéciale au personnage de l'ami imaginaire du père, c'est là où c'est rigolo aussi, joué par Drew Powell. Parce qu'il y a le père a un ami imaginaire. Bon, indéniablement, le père aussi a des soucis de neurodivergence. Mais c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, tout est assumé dans ce film. Et c'est en cela où le film est loin d'être un film parfait. C'est loin d'être un film qui va faire du succès, comme on parlait de l'actrice tout à l'heure. Ses problèmes, elle aussi. Peut-être pour les mêmes raisons, parce que elle aussi a choisi, je crois, de soutenir Donald Trump. Écoutez,
Mais ils ont eu raison, il a gagné, enfin, quand même.
non, ils n'ont pas eu raison, mais justement, peut-être aussi que, voilà, c'est juste des comédiens. Ils peuvent se tromper, ils ont le droit de se tromper. Et s'il y a un moment dans l'année où on peut pardonner aux gens, c'est peut-être, écoutez, à Noël.
Mais vous êtes à fond, monsieur
Ouais, c'est beau
Kogan.
ce que vous dites.
Vous êtes dans l'esprit de Noël, vous allez nous ressortir les contes de Dickens.
Eh bien, écoutez, peut-être. Oh, les contes de Dickens.
Bon,
Alors,
si c'est
les
pour relativiser, c'est pas mal aussi, Dickens.
Ouais, ça
Oui,
va,
sinon,
ouais.
en film, il y a bien sûr aussi Nuit et brouillard. Hein.
N'importe quoi. Alors, les 21 et 22 décembre, c'est le solstice d'hiver. Voilà. Qui, comme Hanouka, endeuillé cette année à Sydney, c'est le moins qu'on puisse dire, est une fête de lumière. Voilà. Et donc, on salue tous ce fameux Ahmed El Ahmed, qui a donc risqué sa vie pour sauver des juifs. Belle leçon, là aussi, en cette occasion. C'est donc en s'appuyant sur ces deux traditions, la juive et la celtique, que les chrétiens ont transformé les Saturnales romaines en fête de Noël. Bon, tout le monde connaît ça à peu près. Plus tard, vont s'ajouter à la christianisation, à ça, la christianisation du dieu Wotan, le dieu des Germains, en Saint Nicolas, Santa Claus. Le Père Noël. Mais oui, donc je vous renvoie à l'excellent essai écrit par Claude Lévi-Strauss il y a 70 ans, Le Père Noël supplicié, histoire de comprendre un peu l'origine de ce mythe. Voilà. Peut-être que les Espagnols sont plus logiques d'ailleurs que les autres, puisque eux, ils fêtent les rois mages. C'est-à-dire dans l'histoire, c'est vraiment eux qui amènent les cadeaux. Voilà. Tout ça pour dire que les athées aussi profiteront quand même des cadeaux. Et que la bûche de Noël est aussi une survivance d'un culte païen. Voilà, c'était mon petit
Non,
moment.
les gens mangeaient pas des bûches, ça suffit,
Attendez, attendez, Monsieur
c'est
Kogan,
calomnie.
vous êtes en train de nous dire qu'à l'époque de l'homme des cavernes, le Père Noël n'existait pas? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Mais c'est scandaleux.
J'ai pas tout à fait dit ça, j'ai même peut-être dit le contraire. Alors.
Mais il n'avait pas une barbe blanche, il n'était pas en rouge du couleur de Coca-Cola. Ok, bon.
C'est oui,
bon.
C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est
c'était
ça.
Pas une canette Pepsi. Bon.
Bah ça, ah. ça devait. Alors, l'homme des cavernes n'existe pas trop, je crois. Mais,
comment ça, il n'existe pas trop? Oui, c'était pas des cavernes, c'était oui. Des surplombs. Bon,
comme l'âne du même nom.
Oui, voilà.
Voilà, et ça devait être quand même vachement long le solstice d'hiver à l'époque.
C'était long, et c'est bien pour ça qu'en plein milieu du solstice d'hiver,
bien sûr.
On fêtait le retour de la lumière. Voilà.
Enfin, oui, sous nos latitudes, parce que ça dépend où vous êtes, Madame
oui,
Ariette.
Mais sauf que la lumière, elle était pas revenue tout de suite. Hein.
Eh bien, si, et c'est justement la date où elle commence à revenir.
Ouais, enfin bon, discrètement. Ouais,
on
hein.
voit que vous habitez pas en Creuse.
Moi qui, voilà, moi qui supporte assez mal les longues nuits de l'hiver, je trouve que c'est pas rapide.
Oh, tout de suite.
Enfin, si vous voulez de la lumière, il suffit de faire cramer quelques pneus, Madame Henriette.
Oui, en effet, c'est la mode.
Ah, bon, ça suffit. Alors, voilà. Alors, j'ai pas spécialement de joyeux Noël à si, qu'est-ce que... Ah, bon, si, à Ralph Fiennes, hein, qui fêtera son anniversaire. Alors, il est né en 62, donc...
Oui, donc quand même.
Mais il fait encore des trucs.
Ça lui fait du 65 ans, non plus.
Donc il fêtera ça le 22 décembre.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, hein. Qu'est-ce qu'il fait?
Vous rigolez, il est dans les films 28 ans plus tard, là, ou 30
oh,
ans plus tard.
Si, mais vous l'avez déjà vu, c'est sûr.
Ah, mais je l'ai déjà vu, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce que je voulais dire, dans un film.
Bah, écoutez, il va bien, a priori, bon, puisqu'il va fêter son anniversaire.
Absolument, il va fêter son anniversaire. Voilà, et puis à la spationaute japonaise, Takuya Onishi. Alors, vous allez me dire, pourquoi au spationaute, pas la spationaute. C'est un garçon, Takuya Onishi. Voilà. Et puis, pourquoi un spationaute? Eh bien, parce que, écoutez, on a, en cette période de fête, la tête dans les étoiles. Et donc,
non, mais dans 2 minutes, il va nous parler de la série Bisounours. Hein.
Non, alors, malheureusement, dans les étoiles, un certain nombre de gens ont décidé d'y aller. Alors, je finis là-dessus. C'est pour ça que j'étais très feel good jusque-là, parce que malheureusement, eh bien, en quelques jours, beaucoup de gens ont décidé de partir.
Enfin, alors, décidé ou étaient, ils ont peut-être été un peu aidés. Hein.
Eh bien oui, et c'est bien le problème. Alors, parmi les gens injustement inconnus, Stanley Baxter, comédien écossais que vous avez certainement vu dans des séries comiques britanniques, qui avait 99 ans, qui a eu une belle vie, une belle carrière, j'espère. Hector Alterio, qui était aussi très vénérable, hein, 96 ans, et qui était un acteur argentin, et entre autres, on l'avait vu dans La chair et le sang, donc film culte, voilà, de Verhoeven. Françoise Biron était une comédienne très âgée, elle aussi, qui a tourné dans énormément de choses, et qui avait 92 ans. Parmi les gens de cinéma, eh bien, là, il y a aussi malheureusement des gens plus connus. Alors, Peter Green était une de ces figures dès qu'il rentrait dans une salle, comme il faisait un petit peu peur, on lui donnait jamais un rôle de gentil, ça c'est sûr. Il a incarné comme ça des rôles flippants dans The Mask, dans Usual Suspects et dans Pulp Fiction, où il était incroyable en flic sadique, qui finit mal. Bon, on va pas se mentir. Cette scène est délirante, la scène du flic, de flic qui torture. Là. Et Peter Green donc, avait porté sur lui aussi, sans doute, les stigmates de ses démons. Et voilà. Et donc, il a disparu à 60 ans, après avoir malheureusement aussi tourné beaucoup de choses inutiles. Mais bon. Voilà. Peter Green. Gilles Gérard, ça vous dit aussi sans doute quelque chose. C'était un garçon qui avait aussi tourné beaucoup dans les séries B, mais qui était connu pour un grand rôle de série. En l'occurrence, pour ma génération, il restera éternellement Buck Rogers. Voilà, il avait 82 ans.
Pardon.
Eh oui, oui. Ben oui, mais ça vous fait rire, mais c'était un personnage qu'on n'oublie pas. Voilà, on se souvient tous de cette série. Voilà, il avait 82 ans. Et
Oui,
maintenant,
alors
tu...
pour les plus jeunes d'entre nous, Buck Rogers, c'est quelle série?
Ah, c'était une
Bah,
série.
c'est Buck Rogers, c'est son nom de la
Ah,
série.
autant pour moi.
Bah,
C'est une
Madame
série de
Olivier.
science-fiction, Buck Rogers au 21e,
D'accord.
au 25e siècle,
Bah
un truc
écoutez,
comme
j'étais pas sur la même chaîne.
ça. Ah ouais, c'était une série de science-fiction. Assez légère, hein, avec un robot bilip bilip. Bref. Alors là, la mort dont je vais parler maintenant est beaucoup plus tragique. Vous en avez sans doute entendu parler, parce que Donald Trump n'a rien trouvé de mieux. Moi, je veux bien pardonner aux acteurs qui le soutiennent. Par contre, je pardonne difficilement quand lui il dit du mal de quelqu'un du milieu culturel. En l'occurrence, aller salir la mémoire d'un de ses opposants, c'est vrai, Rob Reiner était un opposant de Donald Trump. Et Rob Reiner, qui a été assassiné avec son épouse, il avait 78 ans. A priori, ils auraient été assassinés par son fils, mais on verra ce que l'enquête dit. Rob Reiner, c'est 22 films, dont 7 films absolument cultissimes, hein. Quand Harry rencontre Sally, Misery, Spinal Tap, Des hommes d'honneur, The President and Miss Wade, Stand by Me et l'incroyable Princess Bride. Franchement, quand un garçon a réalisé ces films-là, on lui doit le respect, on lui doit beaucoup, parce que c'est un grand artiste et il méritait autre chose que les injures de Donald Trump. Mais finalement, les injures de Donald Trump, n'est-ce pas une petite médaille en chocolat?
Un petit mot, Monsieur Kogan, parce que vous avez déjà dit beaucoup de films, mais il y en a quand même d'autres que moi j'aime bien aussi. La rumeur court qui est à découvrir, parce que c'était le retour de Kevin Costner dans un bon rôle. Donc c'était pas mal quand même. Et c'est on le doit à Rob Reiner. Oui, il joue avec Jennifer Aniston dans ce film, et ça se passe et il est assez bon, Costner. Et évidemment, sans plus attendre, avec le duo magique Morgan Freeman et Jack Nicholson.
Oui, tout à fait, tout à fait. Qui avait moins bien marché que les sept dont j'ai parlé, mais bon.
Ouais, mais qui est quand même tout à fait visionnable.
Dans le milieu de la musique, Abraham Quintanilla, qui était un chanteur et producteur, sa fille était plus connue que lui. Il avait un petit peu capitalisé là-dessus d'ailleurs. Bon, bref, peu importe. Maheline Mazur était une percussionniste. Elle n'était pas très âgée, elle avait joué avec les plus grands. On voit pas Garbarek, Miles Davis. Bon, déjà, quand il y a ça sur un CV, voilà. Joe Ely était un musicien de country assez célèbre. Voilà. Et puis, je voudrais saluer la mémoire d'un de mes camarades. Un immense musicien. Il avait commencé sa carrière de musicien d'ailleurs très jeune et entre autres au fameux Bagad de Lanby Way. Voilà, Yannick Baron avait 89 ans et c'était un immense musicien et un immense militant breton. Kenavo Yannick, voilà. Voilà. Dans les autres formes d'expression artistique, Guy Pécio était un écrivain et un éditeur. Johanna Trollope, vous en avez peut-être entendu parler, était une
Bien
écrivaine anglaise.
sûr, qui est une descendante d'Anthony Trollope en ligne collatérale
Absolument.
pour les amateurs de littérature victorienne.
Absolument, tout à fait. Philippe Soulas était un dessinateur de presse assez connu qui avait signé dans Libé, dans Harakiri, dans Ciné Mensuel. Rosa von Kronheim était un écrivain et un réalisateur et un militant LGBT allemand assez célèbre en Allemagne. Et puis, bah, je finis en citant un dessinateur de BD controversé parce que
Pas
pas
toujours
toujours
élégant.
délicat, pas toujours délicat, mais je crois que c'était un peu volontaire de sa part. Il y avait un vrai talent, une vraie force narrative. Et en fait, ce qui nous paraissait parfois vulgaire était aussi une façon de montrer les travers de notre époque. Édouard Carali avait 84 ans et était très connu sous le nom d'Edika. Et il s'en va avec ses 37 albums sous le bras. C'est tout pour moi, c'est tout. Et puis, peut-être quelques dates avant de vous dire quand même au revoir, au revoir. Qu'est-ce que vous en
Mais oui,
pensez?
mais donnez-nous quelques dates, monsieur Kogan. Mais dites donc, il y a un paquet de gens qui ne voulaient pas voir 2026, hein. Ça fait flipper.
On dirait bien. Alors, peu de dates, parce qu'évidemment, pendant ces 15 jours qui viennent, c'est les fêtes et les gens vont surtout penser à ça, et c'est normal. Mais on peut quand même se rendre, alors, on peut quand même se rendre le 26 décembre si on a, si, voilà, à l'international pour un Elvis Christmas Album and Gospels Tribute. Voilà, c'est un petit peu toujours les mêmes concepts un peu rigolos et décalés à l'international, surtout quand il y a des fêtes comme ça. Monkey Business, c'est un, là aussi, c'est un tribute aux années 60-70, c'est au Limoges, c'est le 27 décembre à 19h30. Et puis, jour de ville, allons en Corrèze, comme tous les ans, il y aura un joyeux non-Noël. Voilà, donc c'est un, une soirée concert assez rigolote, c'est au centre culturel, évidemment, à Tulle et au CCS. Tous les ans, il y a ce genre de soirée assez décalée, donc c'est à 20h30. Et c'est un non-Noël. On peut aussi parler début janvier, puisque nous allons passer en 2026. Eh bien, il y aura au Limoges des soirées qui ont tout de suite, voilà, avec Gare de l'Est en concert le 2 janvier au soir. Et le 3 janvier, tatatin, eh bien oui, c'est nos amis Denis Paroton et Anthony Picard qui viendront chanter du Renault, bien sûr. Voilà, et puis... on pourra faire aussi une bonne action en allant au Baltrade en soutien à la, à la MDH, à la Maison des Droits de la, donc, à la Maison des Droits de l'Homme. J'insiste un peu là-dessus, puisque à la Maison des Droits de l'Homme fait partie des associations qui ont été attaquées par un candidat aux élections municipales. Je vous laisse deviner de quelle étiquette. Voilà, voilà. Ça penche plutôt à droite. Et c'est quand même lamentable d'aller attaquer une association qui s'occupe des plus démunis dans tout un tas de dossiers, dans tout un tas de questions, et qui abrite de nombreuses associations sans lesquelles elle ne pourrait pas, sans, la, sans cette structure, elle ne pourrait pas fonctionner.
Et qui défendent des principes qui sont quand même inscrits dans le préambule de notre Constitution.
Accessoirement, c'est donc le 3 janvier à 20h30.
Sans vouloir faire ma républicaine.
Absolument.
Non, mais et... en plus, excusez-moi, mais c'est un truc de, des gens de droite d'attaquer les associations, puisque Marine Le Pen vient d'être condamnée puisqu'elle a perdu contre la CIMADE. Donc, vous voyez, c'est leur truc.
Ah. Là, et... je pense qu'Albin Fréché va perdre son procès aussi. Voilà, bah... comme je t'ai dit.
Et alors, ce qui est rigolo, M. Kogan, c'est que j'ai découvert à cette occasion, parce que j'ai lu le rendu du jugement, je ne sais pas comment on dit, Mme Ariette.
Alors, ça dépend, c'est un jugement, si bah, c'est premier degré ou sinon c'est un arrêt.
Oui, en tout cas, eh ben, en fait, elle ne s'appelle pas Marine, elle s'appelle Marion.
Oui.
Marine,
oui,
c'est un truc d'usage.
Tout à fait, tout à fait.
Oh, bah, on en fait des découvertes quand même.
C'est pour ça que Marion s'appelle Marion. Voilà. Et donc, je rappelle, le Baltrade en soutien à la MDH, c'est donc le 3 janvier à 20h30 à la salle des fêtes rue du docteur Jacquet. Voilà, voilà. Vous pourrez comme ça participer et danser, grignoter et passer un bon moment avec Roulez Ferme derrière, Le Plancher Tremble et Cosmos. Voilà. Écoutez, moi, je souhaite de bonnes fêtes quand même à tout le monde. En attendant l'année prochaine.
C'est quoi ce quand même, enfin? Mais bien sûr qu'on souhaite de bonnes fêtes. Madame Ariette nous a mis en joie.
Oui, oh ben, comme si j'étais la seule à relayer des nouvelles affreuses.
Bah oui, un peu quand même dans cette émission. Il y a
ah
vous
ben
qui
merci.
Nous plombez le moral.
Merci, ça fait plaisir. Vous
J'ai
savez, c'est par...
de trois choses quand même.
Ah bon, ben allez-y, Monsieur Kogan.
C'est par les femmes qui arrivent tous les malheurs. Vous avez lu l'Ancien Testament.
Est-ce qu'on a le temps? Parce que je ne sais pas si on a le temps.
Mais si, on le prendra.
Ah. Bon, il y a, comme tous les ans, le spectacle de la Java des Gaspards, qu'on peut aller voir. C'est à, évidemment, c'est à l'Espace Nauriac, à Limoges. Donc, ça s'appelle cette année « Sans chichi ni tralala ». Et donc, ça dure du 19 décembre au 3 janvier. Voilà, il y a énormément de spectacles qui sont faits donc, par cette compagnie. C'est tous les ans, c'est un rendez-vous habituel et c'est à ne pas rater. Pour ceux qui aiment toujours, bah, c'est toujours un peu dans le même genre, c'est de l'opérette. Il y aura du Offenbach, voilà, cette année à Limoges, le 28-12. Et le même concert lyrique par le chœur de l'Opéra de Limoges sera donc donné aussi le 3 janvier au Rock à Panazol. Voilà, et puis bah, pour terminer, pour vous passer la main, on peut aussi finir cette année en Creuse. Sauf qu'en Creuse, eh ben, moi j'ai du mal à trouver des dates autres que les dates que j'ai déjà données l'année pour les autres.
La semaine dernière, vous voulez dire.
La semaine dernière. Mais je ne désespère pas que l'année prochaine, les gens m'envoient des dates de spectacle à chroniquer, qui sait?
Oui, et puis y a, oui, le mois de janvier commence fort à Guéret. Enfin, commence. Le mois de janvier
Mais il n'a pas commencé
recèle.
encore, mais
Oui, non,
qu'est-ce que
mais
vous
le mois de
dites? Il va
janvier
commencer en même temps qu'ailleurs.
portera son lot de spectacles divers. Voilà.
D'hiver.
Divers, en un seul mot.
Ah, d'accord.
Et oui, il y avait des choses à annoncer effectivement en Creuse, mais qui sont passées, puisque le samedi 13 décembre, il y avait à la médiathèque de Guéret une journée polaire qui s'appelait Hiver polaire à Guéret et qui était fort intéressante. Si vous aimez entendre parler d'explorateurs et d'Arctique et d'Antarctique.
Et des pôles.
Des pôles, voilà. Et donc, mais il y aura plein de choses, puisque là aussi, en côté par exemple, Baltrade, il y aura des Baltrades qui recommenceront dès le 9 janvier à Faux-la-Montagne. Voilà.
Si vous avez raté cette journée samedi dernier,
Cette journée polaire, hein?
cette journée polaire, c'est dans le cadre donc de Un hiver polaire à Guéret à la bibliothèque multimédia. Et il y a encore quelques événements puisque l'exposition sera là jusqu'à la fin du mois de janvier et il y aura encore une visite le samedi 24 et visite guidée pardon et le samedi 31 janvier. Et puis des projections. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, Monsieur Kogan, mais bon, on peut l'annoncer tout de suite. Projection de Torsou Katak, projection de débat. C'est un documentaire donc ben, sur d'Éric Chazal et de Bertrand Fernandez sur ces régions. Et puis, il y aura une lecture avec le cours d'art dramatique du Conservatoire et Hervé Herpe, donc sur Un hivernage dans les glaces de Jules Verne. Ce sera le 22 janvier. Mais on aura le temps d'en reparler.
Mais bien
Absolument.
sûr, il y a un magnifique ours à voir à la BMI. Alors c'est un ours polaire, mais il n'est pas blanc.
C'est en plaque de métal et c'est absolument magnifique.
Bon, ben écoutez, on se dit à l'année prochaine alors.
Bah oui, j'espère.
Ah ben super, merci. Non mais Madame Henriette, ce soir,
Oui, j'ai la
à
patate, hein.
fond.
C'est
Allez voir le
normal.
film de Noël de Monsieur Kogan.
Oui, bah oui, ça va me remettre d'aplomb, effectivement. Là, je vais sortir de là.
Donc je rappelle, ce film, qui doit donc facilement se trouver, s'appelle The Unbreakable Boy. Voilà. Et puis, écoutez, ben, je voudrais juste souhaiter un bon Nadao à tous, un Nedeleglaouen, comme on dit chez moi là-haut en Bretagne. Et puis, ben, à l'année prochaine.
Exactement, on se retrouve en janvier. Des bisous, mangez bien et tenez-vous loin des virus.
Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Come prima tu me donnes ton amour, que j'espère te le rendre, compterai.